Les éditions Telem présentent un enregistrement intégral de « Le chaos dans nos veines » de Cécile Cabanac, lu par Laurent Gérald. À Joseph et Julien, mes amours. Il nous arrive à tous d'avoir envie de mourir lorsque l'effort de vivre nous épuise. Mais cela ne dure pas. Comme le temps. Nous sommes comme le temps. Vous voyez le ciel ? Ces nuages, ils passent. Entre deux lacs, comme ici, tout finit par passer, non? Joyce Carol Oates, Les Chutes. La vérité est parfois très difficile à manier. Le mensonge est plus simple. Henning Mankell, Les Chaussures Italiennes. Tuer un homme n'est pas à la portée du premier venu. Il n'y a pas de manuel pour ça, pas d'entraînement possible. Il ne faut pas seulement être doté d'une certaine force mentale. L'endurance a aussi son importance. Au fond, toute l'énergie de l'âme et du corps doit être concentrée vers ce but unique, l'annihilation de l'autre, sans quoi l'entreprise risque d'échouer lamentablement. Pendant la manœuvre, l'instinct de survie de l'autre, dopé par la menace, peut se réveiller subitement et sa rage exploser avec fracas dans un déluge de mouvements hystériques dont il faut savoir se protéger. Bien sûr, on peut anticiper une telle réaction, mais l'intensité de cette fureur de vivre décontenancera toujours. Très vite, des fourmillements parcourent les bras. Puis la respiration se bloque momentanément pour laisser place à la force pure. Si l'on ne soupçonne pas nos propres capacités, comment évaluer celle des autres? C'est un coup de poker. Il a peut-être été champion d'apnée, de marathon ou de lutte. Des détails de sa biographie peuvent nous avoir échappé. Raison pour laquelle cette étape-là est particulièrement délicate. On prend alors conscience que l'on peut tout perdre. Sa famille, ses amis, son emploi, une existence peut-être un peu morne, mais confortable après tout. Si l'on vacille, alors qu'on est dans cette zone rouge, c'en est fini. Les poumons brûlent tant, ils réclament un souffle. Mais rien ne doit venir ébranler la concentration, pas même une inspiration, pas tant qu'on n'a pas la certitude d'en avoir terminé. Les corps sont en nage, les yeux se révulsent, les veines saillent. Le cerveau dicte de maintenir la pression, encore, plus fort, malgré les crampes qui tétanisent les muscles. Ses mains peuvent encore nous atteindre. Finalement, c'est quand l'autre semble prêt à renoncer et qu'une accalmie pointe qu'il faut redoubler de vigilance. Car la foudre peut encore le traverser et renverser la situation. Voilà. En tombant mollement au sol, sa chute produit un son sourd et comme un tout petit dérèglement dans l'ordre de l'univers. Alors le cœur palpite. Des feux d'artifice explosent entre les tempes. Cette mort provoque une extase, un délicieux vertige. C'est à la fois grisant et affolant, mais si excitant. L'obsession de tuer, tel un vilain rapace, vient d'être nourrie. Après, on est repu. Hiver 1983. La salle du tribunal de grande instance bruissa comme un essaim impatient lorsque l'accusé, une femme fluette aux cheveux attachés et un sage chignon, prit place dans le box. Habillée d'une chemise bleue et d'une jupe crayon grise, Christelle Vaugrand avait l'allure d'une enfant, encadrée par deux agents en uniforme et képi marine. Ses petits yeux fixaient un point invisible. Sans doute cherchait-elle à s'extraire de l'agitation qu'elle suscitait pendant que les spectateurs s'échinaient à trouver la preuve d'un quelconque maléfice dans la courbure de sa bouche ou la forme de son nez. Son avocat, lui, étudiait cet auditoire d'un air concentré. Car il lui faudrait, plus tard, le faire vibrer en parfaite harmonie avec sa plaidoirie. Et la tâche ne serait pas aisée. En effet, sous ses dehors d'un classicisme ordinaire, Christelle était une criminelle de la pire espèce, un monstre accusé d'avoir assassiné ses trois jeunes enfants. Le président de la cour d'assises commença par présenter les faits d'une voix monocorde. Mais l'apparente neutralité de son vocabulaire cachait mal